Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
C'est une immense émotion, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est un immense jour de fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique. Parce que ça tord le cou à tous les sceptiques qui pensaient que l'Afrique était un continent damné, interdit de rendre une justice exemplaire, interdit d'assumer un procès dans le respect des meilleurs standards internationaux. Eh bien, à tous les sceptiques, ce verdict et ce procès apportent un démenti absolu.
Voilà la réaction de William Bourdon, avocat des victimes d'Issenabré, quelques minutes tout juste après l'énoncé d'un verdict historique, la condamnation d'Issenabré pour crime contre l'humanité. L'ancien président tchadien condamné à la prison à vie au terme d'un procès sans précédent qui ne s'est pas déroulé au Tchad mais à Dakar devant une juridiction ad hoc, les chambres africaines extraordinaires. Elles ont été créées en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine. La première fois qu'un ancien chef d'État est traduit dans un pays qui n'est pas le sien, pour violation présumée des droits de l'homme au titre de la compétence universelle. Alors, le procès Abré est-il un exemple à suivre? Le premier d'une série? L'Afrique doit-elle juger ses criminels sur son sol? C'est le débat de ce soir, bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Clémence Bechtart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate à la FIDH. Par téléphone avec nous en direct du Mali, Mamadou Ismaïla Konaté, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes avocat et vous avez entre autres été l'avocat d'Issenabré en 2005 et en 2006. Clémence Bechtart, est-ce que justice a été rendue aujourd'hui ?
Oui, on peut le dire ce soir sans aucune hésitation. Justice a bel et bien été rendue au terme d'un combat empreint de beaucoup de détermination et de courage de la part des victimes du régime d'Issenabré. Et on ne peut que se féliciter ce soir que cette décision, ce verdict historique, ait été rendu sur le continent africain au terme d'un procès que de nombreux observateurs ont pu juger parfaitement équitable.
Et alors, on l'entendait au début de l'émission, William Bourdon, donc avocat de certaines des victimes d'Issenabré, parle d'une justice exemplaire, d'un procès dans les meilleurs standards internationaux. Vous avez la même analyse ?
Oui, tout à fait, la même analyse. C'est un procès dans lequel, malgré la ligne de défense, ce que beaucoup ont regretté, adopté par Issenabré, qui a été celle d'un silence total opposé durant l'ensemble des débats,
eh bien, d'un mépris insultant, a d'ailleurs dit aujourd'hui.
Tout à fait, c'est comme ça que l'a qualifié le président de la Cour en énonçant son verdict. Eh bien, c'est un débat dans lequel les témoins, les victimes ont pu venir exposer leurs souffrances, parler des crimes qu'elles avaient subis, et c'était très important de pouvoir enfin le faire. Et c'est un procès au terme duquel il y a une véritable vérité judiciaire qui a été annoncée, qui était tant attendue par les victimes, et cela est une grande satisfaction.
Alors Mamadou Ismaïla Konaté, Clémence Bechtart nous parle d'immense satisfaction, de justice qui a été rendue. Est-ce que c'est votre analyse ?
Oui, enfin, on peut se placer d'un certain point de vue dans une espèce d'autosatisfaction. Je pense aujourd'hui qu'il faut être assez réaliste et voir les choses en face. Bien évidemment, les propos que je tiens là ne consistent pas du tout à vénérer l'impossibilité de poursuivre les dirigeants africains, surtout lorsqu'ils sont susceptibles d'être mis en cause dans le cadre de crimes graves. Et deuxièmement, je ne suis pas non plus un bat-en-guerre contre la justice internationale. Ces deux principes évoqués, je pose simplement la question. Les victimes présumées ou les victimes de Issenabré, elles sont au Tchad. Deuxièmement, qui met en cause Issenabré, ce sont ces victimes-là. C'est quand même curieux de voir aujourd'hui qu'au bout de 26 ans, on arrive aujourd'hui à installer une justice telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, mise en place dans des conditions inacceptables, pour poursuivre le président Issenabré qui est supposé être le criminel.
Mamadou Ismaïla Konaté, pourquoi vous nous dites un jugement inacceptable ? Est-ce que ce ne sont pas les victimes tchadiennes qui ont porté ce dossier et qui aujourd'hui voient ce justice être rendue ?
Chère madame, ma consoeur qui est sur le plateau ne va pas me contester lorsque je dis que la justice est rendue au nom du peuple. Où est le peuple aujourd'hui ?
Alors, on va peut-être écouter justement Clémence Bechtart qui veut vous répondre.
si vous voulez, ce qui a fondé le fait que ce procès se soit déroulé au Sénégal, c'est le fait que Hissène Habré, après sa chute, a trouvé refuge sur le territoire sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle, très tôt, la demande de justice des victimes tchadiennes s'est portée vers les juridictions sénégalaises. C'était de l'obligation du Sénégal, et cela, il y a trois instances internationales qui l'ont rappelé, qui ont été saisies, la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour internationale de justice et le Comité contre la torture des Nations Unies, qui l'ont rappelé. C'était en vertu des obligations internationales du Sénégal que le Sénégal devait juger Hissène Habré à partir du moment où celui-ci avait trouvé refuge sur le territoire sénégalais. Soit l'extrader vers un pays qui pouvait lui assurer un procès équitable, soit le juger. Et c'est en vertu de ces obligations internationales que ce procès s'est déroulé au Sénégal.
Mamadou Ismaïla Konaté, quand vous entendez cela, des obligations internationales du Sénégal, vous entendez cet argument ou vous le réfutez ?
Je refute ces arguments pour la simple raison que j'ai été parmi des avocats, notamment les tout premiers, qui ont mis en cause le comportement de l'État du Sénégal en ce qu'il voulait juger Hissène Habré. Rappelons quand même que depuis 26 ans que le président Hissène Habré est installé au Sénégal, il n'y a pas de raison, dès lors qu'on a mis la main sur le président sénégalais, qu'on a décidé de le juger, qu'on le juge ailleurs que là où se trouvent les victimes, là où les crimes ont été commis, c'est le Tchad. On constate simplement que le Tchad était un pays incapable de pouvoir fournir une justice équitable aujourd'hui, tout comme les conditions dans lesquelles cette justice qui n'est pas sénégalaise, ma chère consoeur, qui est plutôt une justice montée de toutes pièces par l'Union africaine, à la fin d'une rencontre de chefs d'État où la moitié des chefs d'État avaient été partis d'Addis Abeba. C'est cela qu'il faut aussi dire. On est allé très vite, on est allé en catimini, on voulait juste une image, un symbole, on l'a eu. Le lendemain, vous dormez, vous vous réveillez, vous vous dites quoi ? Vous dites bravo qu'aujourd'hui la justice a été rendue, qu'on sait les conditions dans lesquelles les crimes qui sont reprochés à Hissène Habré ont été compris et qu'on peut tirer des leçons de ces crimes. Je n'en suis pas très très sûr. Je ne suis pas sûr que cette manière cavalière d'installer la justice, de juger Hissène Habré, est muet en face. Je ne suis pas sûr que nous soyons dans le cadre d'une justice standard.
Clémence Bechtart, est-ce que Hissène Habré n'aurait pas dû être jugé au Tchad ? Est-ce qu'il aurait pu être jugé au Tchad ?
Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que Hissène Habré a été condamné à mort par contumace au Tchad, ce qui rendait donc très illusoire les conditions d'un procès équitable. Et encore une fois, le fait qu'il soit jugé au Sénégal, cela procède d'une demande articulée de la part des victimes tchadiennes, qui ont eu confiance en la capacité des autorités judiciaires sénégalaises pour leur rendre justice. C'est cela la démarche. Ça a été une démarche longue.
Mais est-ce que ça aurait été mieux s'il avait pu être jugé au Tchad ?
Bien évidemment, la FIDH est la première à soutenir que la justice doit toujours intervenir en priorité au plus près des victimes et au plus près du lieu de perpétration des crimes. Donc c'est toujours préférable de pouvoir saisir la justice nationale. Il n'en demeure pas moins que dans un certain nombre de situations, cela est impossible. C'est impossible de l'aveu même des victimes qui n'ont pas confiance en la capacité de leur système judiciaire à leur rendre une justice impartiale et équitable, et de l'aveu même aussi, en l'occurrence, des juridictions sénégalaises qui ont été estimées que les conditions juridiques n'étaient pas remplies pour pouvoir extrader Hissène Habré vers le Tchad. Et c'est la raison pour laquelle ces chambres africaines extraordinaires ont été constituées, encore une fois en réponse d'un mandat donné par l'Union africaine au Sénégal et de décisions rendues notamment par la Cour de justice de la CEDEAO, qui a estimé que le Sénégal devait mettre en place une telle juridiction pour garantir à Hissène Habré un procès équitable au Tchad.
Mamadou Ismaïla Konaté, vous avez semblé nous dire tout à l'heure qu'il aurait été mieux qu'Hissène Habré soit jugé au Tchad, mais qu'il n'aurait pas pu l'être vraiment. Et en même temps, vous contestez aussi ces chambres africaines extraordinaires. Qui aurait dû juger Hissène Habré, selon vous ?
D'abord, je conteste les conditions dans lesquelles ces chambres africaines ont été mises en place. Elles ont été mises en place à la suite d'une réunion du chef d'État de l'Union africaine dont la moitié se trouve dans la même situation que Hissène Habré aujourd'hui. Et deuxièmement, elles ont été mises en place à la fin d'une réunion de chefs d'État, là où la moitié des chefs d'État étaient partis d'Addis Abeba. Troisièmement, aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, et là aussi il faut que la FIDH et toutes les associations de défense des droits de l'homme puissent s'expliquer là-dessus, comment indiquer les conditions dans lesquelles les juges ont été désignés par l'autorité politique ? sénégalaise, même si ce sont des juges burkinabés et des juges d'ailleurs. Comment indiquer aujourd'hui que la loi qui est servie à juger Hissène Habré aujourd'hui est une loi totalement téléguidée pour simplement mettre la main sur Hissène Habré au nom de l'impunité, avoir le premier symbole qui tombe? Voilà des situations d'inégalité, d'irrégularité qui font que nous avons en face aujourd'hui une justice qui est totalement inéquitable. Cet exemple des chambres réunies installées par les juridictions sénégalaises n'est pas un bon exemple et n'est pas vendable en Afrique. Ce que je revendique aujourd'hui, pour en terminer, c'est que visiblement les autorités politiques qui ont été capables dans des conditions qui j'ai défini tout à l'heure, pour mettre en place les chambres réunies, doivent être capables aujourd'hui de mettre en place une justice digne de ce nom pour poursuivre, éventuellement mettre en cause l'ensemble des faits et gestes politiques de nos dirigeants lorsqu'ils sont en situation de pouvoir.
Alors, on va revenir évidemment sur cette structure qu'il est peut-être à inventer, mais d'abord, Clémence Bechtard, je voudrais que vous réagissiez à ces accusations que vous adresse entre autres Mamadou Konaté, donc des conditions de décision du jugement qui seraient un petit peu obscures, l'instance de l'Union africaine elle aussi qui serait un petit peu à questionner, et puis les conditions de désignation des juges. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, attention, cette juridiction n'était peut-être pas la plus légitime?
Eh bien, les détracteurs de ce procès, de cette procédure judiciaire, ont souvent dit que la loi incorporant dans le droit pénal sénégalais les obligations découlant notamment de la Convention contre la torture des Nations Unies était une loi faite sur mesure pour pouvoir permettre de juger Hissène Habré. Il n'en est rien. Par ces modifications législatives et constitutionnelles, le Sénégal, au-delà de cette affaire Hissène Habré, a souhaité se mettre en conformité avec ses obligations internationales et avec tout engagement pris par les États signataires ayant ratifié ce type de convention, ces engagements énonçant le fait de s'engager véritablement dans la lutte contre l'impunité. Donc ce n'est pas un choix destiné simplement à pouvoir juger sur mesure Hissène Habré, il s'agit d'un acte positif, d'une volonté positive de l'État du Sénégal, et je pense qu'on ne peut que le saluer, de s'être mis en conformité, et on espère que d'autres États africains feront de même. Bien évidemment, c'est un signal fort disant que le continent africain est capable de juger ses bourreaux. C'est comme cela que ça doit se passer à l'avenir. C'est un signal fort aussi pour les victimes qui souhaitent en priorité, comme je le disais, adresser leur demande de justice à leur justice nationale avant de se tourner éventuellement vers des instances internationales. Et le problème auquel on se trouve confronté là, dans la position de mon confrère, c'est que à force de contester toute entreprise de justice, eh bien, on se retrouve à cautionner des solution d'impunité. Et on se rend compte que les plus grands détracteurs de la justice internationale sont les promoteurs de l'impunité, bien souvent.
Alors, même si Mamadou Konaté s'en est défendu au début de l'émission, Mamadou Konaté, sur ce message quand même, c'est effectivement ce qu'on entend beaucoup, ce procès, ce verdict, c'est aussi un message qui a été adressé aux chefs d'État africains ou aux dignitaires qui bafouent la dignité humaine de leurs citoyens. Est-ce que vous l'entendez quand même, ce message, ou pas du tout?
Voyez-vous, madame, d'abord, ce qui me gêne, c'est que ma consœur ne soit pas heurtée par la violation d'un principe absolu en droit pénal, la non-rétroactivité de la loi pénale. Au moment où nous avons déféré cette affaire Hissène Habré devant la Cour de justice de la CEDEAO, qui a condamné dans des termes très clairs l'État du Sénégal en disant que, au moins, faire rétroagir la loi pénale était une situation inadmissible. Au-delà, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la vocation des hommes politiques, notamment ceux qui sont à la tête de nos États, doit consister aujourd'hui à fixer des principes très forts. Et là-dessus, je peux rejoindre ma consœur à ce niveau-là, que je suis contre l'impunité d'une part, et je suis pour la justice internationale, tant que la justice continentale africaine n'est pas à même de pouvoir appréhender les faits et gestes criminels. Je suis contre l'impunité, je veux la justice internationale. Mais avant toute justice internationale, il faut que nous, les Africains, soyons capables aujourd'hui de nous mettre en situation, de mettre en place des structures dignes de ce nom, sur la base de cadres juridiques qui soient adoptés, adaptés et acceptés par tous, sans compter que souvent il y en a assez de voir l'Occident nous rappeler sans cesse les droits de l'homme que nous pouvons partager à bien des égards avec eux, mais que des poursuites viennent de l'Occident que aujourd'hui au Tchad, ce soit des avocats de partis civils qui étaient là pour aller déterrer des documents de la DDSE, la police spéciale de Hissène Habré, voilà des situations qui peuvent rendre précaires, qui peuvent douter de cette justice internationale telle qu'elle a été mise en place au Sénégal.
Clémence Bechtart.
Là encore, je m'inscris totalement en faux contre ce qui vient d'être dit. Lorsqu'on voit, par exemple, en Côte d'Ivoire, les efforts de justice qui sont entrepris actuellement devant la cellule spéciale d'enquête et d'investigation qui a été formée au sein du tribunal d'Abidjan sur les crimes de la crise post-électorale, c'est bien des efforts entrepris par les victimes africaines, par des juges africains, avec des avocats africains pour rendre justice aux victimes. C'est ce processus-là qu'il faut saluer.
Et alors, est-ce qu'il ne faut pas envisager d'imaginer une cour africaine ?
Une
structure africaine à l'échelle du continent qui serait chargée de juger ce genre d'exactions.
Il y a des discussions qui sont en cours actuellement au sein de l'Union africaine à travers la création d'une cour pénale africaine qui aurait vocation à être compétente sur les crimes internationaux et qui serait donc une cour concurrente à la Cour pénale internationale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
elle est très critiquée sur le continent africain. Ce serait une sorte de réponse, un message aussi adressé
exactement.
Au continent.
Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est que les dispositions dans les discussions sur la création de cette cour remettraient en cause le principe selon lequel il n'y a pas d'immunité pour les chefs d'État dans la perpétration de crimes internationaux. Donc, bien sûr, il peut y avoir un certain nombre de mécanismes, mais il ne s'agit pas de créer des mécanismes pour se soustraire ou pour soustraire certains, et en particulier les plus hauts responsables, à la justice.
Mamadou Konaté, sur cette structure africaine, vous nous avez dit que vous y étiez favorable, mais qu'est-ce qu'il manque pour qu'elle existe aujourd'hui ? Une volonté politique ?
Bien évidemment, il faut une volonté politique forte. Il faut déjà qu'on arrive à se convaincre de la nécessité absolue de bâtir des états de droit avec le corollaire, la justice. Tant que les justices ne sont pas bâties à l'intérieur de nos états, on aura du mal à bâtir une justice internationale. Le principe de base doit être que les hommes, quels qu'ils soient, au pouvoir ou en dehors de pouvoir, politique ou non, doivent être capables de répondre de leurs faits et gestes. Le crime ne doit pas rester impuni, mais poursuivre coûte que coûte, vaille que vaille, par des modalités qui sont contestables pour poursuivre la justice au nom de crimes qui ne doivent pas rester impunis, je suis sceptique. La Cour pénale internationale est décriée aujourd'hui. Sans doute qu'il faut mettre en place une cour pénale africaine dans des conditions qui soient celles qui émanent des Africains d'une part et qui aujourd'hui permettent aux Africains de répondre à leurs propres questionnements.
Et cette cour spéciale au sein du système judiciaire national centrafricain qui a été votée, est-ce que ça, c'est pas une manière justement de renforcer le système judiciaire national, Clémence Bechtart ?
Bien sûr, là aussi, c'est un dispositif particulier qui a été pensé et conçu au sein des juridictions centrafricaines pour répondre à la demande de justice et pour répondre aussi à une situation de violation massive des droits de l'homme, donc avec potentiellement un nombre très important de victimes, mais aussi un nombre très important de responsables, et donc d'essayer de mettre en place, au sein de la justice nationale centrafricaine, les conditions pour pouvoir répondre de manière satisfaisante, de manière équitable, à cette demande de justice. Donc on le voit, je dirais que le mécanisme est en marche aujourd'hui. Et c'est en ça que la décision, le verdict rendu aujourd'hui est très important. Parce que cela conforte aussi les victimes du continent africain dans leur volonté de saisir et de pouvoir essayer d'établir une certaine confiance dans la capacité de leur justice nationale à répondre à leur demande de justice. C'est celle-là la demande qui est formée aujourd'hui, et c'est à cette demande que les justices doivent répondre, mais pas dans n'importe quelle condition. Parce que la demande de justice des victimes, elle est aussi une demande de justice, encore une fois, équitable. C'est une demande articulée, et c'est une demande aussi qui ne peut pas faire fi d'un certain nombre de garanties, qui ne sont pas des garanties occidentales, qui sont des garanties universelles, et qui permettront de rendre une justice satisfaisante.
Merci beaucoup à nos deux invités. C'est déjà la fin de cette émission. Merci donc à Clémence Bechtart que vous venez d'entendre, avocate à la FIDH. Merci également à Mamadou Konaté, avocat malien qui a été l'avocat d'Hissène Habré en 2005 et 2006 et qui est avec nous en direct directe du Mali. Merci également à Florence Ponce, à Hélène Avril. Dans quelques secondes, c'est le journal de Loïc Bussière, édition spéciale qui continue après ce journal avec le journal de Loïc Bussière. Et vous retrouvez d'ailleurs des éditions spéciales des journaux qui reviendront sur l'actualité, ce verdict contre Hissène Habré dans nos matinales de demain, 18h et bientôt 59 minutes à Paris. Vivez sur RFI.